La Voix de l'Amérique.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Washington Forum. À la une ce soir, le boom des smartphones sur le continent. L'Afrique reliée au monde grâce à ce téléphone.
En quoi l'explosion des téléphones connectés à Internet a changé la vie des Africains ? Banque en ligne, consultation médicale ou tout simplement être en contact avec ses proches, les smartphones sont partout sur le continent. Mais plus de communication signifie-t-il une meilleure communication ? Élément de réponse dans ce Washington Forum.
Washington Forum.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. L'explosion de l'utilisation des smartphones en Afrique, c'est donc le thème de notre émission. Un chiffre pour bien comprendre l'importance du phénomène. 350 millions, c'est le nombre de smartphones qui seront utilisés d'ici 2017 en Afrique. Rien que pour l'année 2015, le cabinet Deloitte prévoit une hausse des ventes de 40% en Afrique, soit 70 millions de smartphones vendus. Avant d'entendre nos invités, je vous propose de regarder ce reportage de Zakaria Camara à Conakry. En Guinée, le réseau n'est pas le meilleur d'Afrique de l'Ouest, mais comme l'a constaté notre correspondant, l'engouement est le même pour les smartphones. Reportage.
Dans cette boutique, manipuler le téléphone pour convaincre le demandeur est un exercice quotidien. Cet homme à droite propose à ses clients toute une gamme de téléphones.
Et ces smartphones aussi ont différentes qualités. Les gens, on a d'autres modèles ici dans le marché qui sont des photocopies. Donc, les gens, quelqu'un va le prendre, soi-disant que c'est un vrai smartphone. Après, il a des difficultés du point de vue internet, la connexion est trop mauvaise. Et puis, il n'y a pas de facilité dans l'utilisation. Donc, c'est un peu ça. Ouais.
La star de la téléphonie mobile en Guinée, depuis quelques années seulement, c'est cet appareil. Le smartphone, téléphone prisé, et qui s'achète à cause de son intelligence. Nous sommes au cœur de Kaloum, le centre-ville. Le téléphone est vendu partout, du petit prix au prix de luxe. Un iPhone 6, par exemple, se vend à un peu plus de 1000 dollars, soit près de 7 millions de francs guinéens, une grosse somme que versent tous les jours les mordus de technologie dans cette autre boutique.
On a parfois les clients qui viennent, qui veulent par exemple les genres de téléphones vraiment qui sont un peu compliqués, mais on arrive quand même à les convaincre, à les parler d'un iPhone, à les vraiment expliquer. Parce qu'en fait, parmi tous les téléphones, parmi tous les smartphones, même si vous partez sur l'Internet, je pense que vraiment un iPhone est meilleur.
Le téléphone intelligent a changé la vie de nombreux Guinéens. Internet, info, météo, les vidéos, les photos et autres applications sont des activités de tous les jours.
La technologie a un peu avancé avec les réseaux 3G, la connexion ainsi de suite. Il est plus utile d'utiliser un smartphone que d'utiliser un téléphone avec son clavier. Donc, smartphone, c'est la nouvelle génération.
Avoir un smartphone qui vient de sortir sur le marché, c'est aussi un moyen de frimer. Et les femmes n'hésitent pas à le brandir tel un diamant lors des cérémonies de réjouissance. Conakry, Zakaria Camara, Washington Forum.
Et merci Zakaria pour ce reportage. J'accueille à présent mes invités. Ici à mes côtés en plateau à Washington, Michel Rogier, vous êtes conseiller en politique des technologies de l'information et communication auprès de la Banque mondiale. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
On a également le plaisir d'avoir avec nous à Nouakchott, en Mauritanie, Khadijatou Abeid, créatrice entre autres de l'application Diab App. Bonsoir.
Bonsoir.
Depuis notre studio à Paris, Jean-Michel Huette, consultant chez Bearing Point. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à Tunis, Karim Koundi, directeur associé technologie média télécom chez Deloitte. Bonsoir.
Bonsoir.
Allez, on va évidemment commencer ce débat ici. Karim Koundi, on commence avec vous puisque vous êtes l'auteur d'une récente étude sur les tendances en matière de smartphone. Et vous avez notamment noté cette explosion, évidemment, vous le disiez dans votre rapport. Est-ce qu'on peut parler de véritable révolution technologique en Afrique ?
Oui, effectivement, donc sur la base de l'étude en fait, qui vient de paraître du cabinet Deloitte, on observe clairement une sorte d'accélération des ventes des smartphones sur le continent africain, et qui va se poursuivre à une sorte de cadence importante sur les, au moins sur les 3-4 prochaines années. Donc on estime qu'il y aura une croissance de 40% des ventes de smartphones sur le continent sur l'année 2015 et qui va se poursuivre pour donc en fait pour qu'on puisse atteindre en fait un parc de 350 millions de smartphones sur le continent d'ici 2017.
Oui, cela a notamment un impact dans le secteur bancaire où l'Afrique représente 52% des transactions mondiales via un mobile. Alors, vous le notiez évidemment, au Kenya, cela représente plus de 50% des transactions, 25% au Sénégal. Michel Rougy, c'est aussi le constat que vous faites à la Banque mondiale, cette explosion et cet impact sur l'activité économique sur le continent africain ?
Tout à fait. C'est un continent qui a démontré une énorme capacité d'innovation. Ils se sont saisis du mobile et on trouve maintenant un mobile dans la plupart des villages africains. Ils se sont saisis de la possibilité de faire des paiements à travers le mobile et maintenant avec les smartphones, on se prépare à la prochaine innovation technologique sur le continent.
Mais ça a un vrai impact sur la croissance économique en Afrique ?
Oui, le développement des technologies de l'information permet des nouvelles possibilités d'emploi, permet des nouvelles possibilités d'activité. Et puis, on le verra probablement avec l'exemple de la compétition en Mauritanie, permet aussi d'apporter des nouvelles solutions à des problèmes de la vie quotidienne.
Alors justement, la transition est toute trouvée. Partons en Mauritanie. Khadijatou Abeid, on parle beaucoup de ces changements dans les rapports, ici à Washington et dans d'autres lieux. Mais est-ce que ces changements sont une réalité à Nouakchott, là où vous vivez ?
Je voudrais préciser que la Mauritanie n'est pas en reste de cette explosion. Nous comptons plus de 70% des jeunes Mauritaniens utilisent leur smartphone pour soit se connecter aux réseaux sociaux ou surfer sur le net. Donc nous voulons profiter de cette révolution technologique afin de contribuer au développement de notre pays. À travers l'émergence d'un écosystème innovant mauritanien.
Et Jean-Michel Huet, à Paris, vous me disiez en préparant cette émission que les smartphones permettaient de compenser notamment la déficience en matière d'infrastructures routières en Afrique.
Bah oui, typiquement, s'il y a un succès comme on connaît par exemple au Kenya pour le mobile payment, c'est justement parce que le téléphone mobile permet une certaine ubiquité. Il faut se rendre compte qu'on a les deux tiers de l'Afrique qui est couverte en téléphonie mobile, 2G essentiellement, un peu de 3G et pas beaucoup de 4G. On a seulement 30% des 400 000 villages africains qui ont une route plus ou moins bitumée accessible. C'est-à-dire qu'il est plus facile aujourd'hui d'être dans une zone couverte par la téléphonie mobile que de trouver une route goudronnée pour aller dans un village en Afrique. Donc oui, il y a une vraie substitution de la partie transport par les mobiles.
Mais Karim Koundi, est-ce qu'il y a un peu trop d'euphorie finalement? Il y a quand même une fracture en Afrique, notamment dans le haut débit qui n'est pas présent partout.
Oui, effectivement, quand on voit les chiffres en termes de moyenne, on observe une très forte en fait, progression. Donc aujourd'hui, le taux de pénétration des smartphones sur le continent, il est je dirais, en moyenne de 15%. Mais on observe quand même des disparités, surtout entre les pays du littoral africain et les pays centraux. Et ça, c'est dû principalement au fait à la couverture, en fait, au débit qui est moins développé dans les pays centraux qu'au niveau des pays du littoral, et aussi au niveau des coûts télécoms. Les coûts télécoms au niveau des pays du littoral africain sont moins élevés que ceux des pays centraux, et ceci principalement dû au fait que la majorité des câbles sous-marins qui apportent la bande passante au continent donc arrivent sur le littoral africain. Donc du coup, les pays du littoral ont plus accès à cette bande passante. Donc il y a plus de couverture et des coûts télécoms qui sont plus ou moins en fait, divisés par deux en comparant par rapport aux coûts télécoms des pays centraux tels que le Tchad, la RDC, etc.
Est-ce qu'il n'y a pas également aussi, Jean-Michel Rougier, finalement, une fracture aussi entre les gens qui sont en ville, justement, et les gens qui sont dans les milieux ruraux très reculés, qui n'ont pas forcément accès à ces réseaux ?
Oui, exactement. C'est même un des sujets de préoccupation majeure pour la Banque mondiale, d'éviter que cette fracture numérique ne s'installe dans la durée. Comme l'a dit fort justement Karim, aujourd'hui, les câbles sous-marins qui apportent la connectivité sont dans tous les pays côtiers. Et le défi maintenant, c'est d'amener cette connectivité à l'intérieur des pays et vers les pays enclavés. Ça veut dire des investissements dans des réseaux fibre optique pour acheminer cette connectivité. Et ça veut aussi dire, du côté des terminaux, puisque c'est le sujet de l'émission, de passer à des niveaux de prix qui ne sont pas sur le 1000 dollars dont on a entendu parler pour, dans l'exemple de la Guinée, mais qu'on soit bien en dessous des 100 dollars pour que ça soit à la portée des gens.
Il y a notamment Airtel, hein, cette compagnie qui annonçait la semaine dernière le lancement d'un smartphone à 50 dollars. Peut-être une opportunité justement pour les terminaux. Vous êtes bien à l'écoute de VOA Afrique. On va marquer une petite pause avant de poursuivre notre émission. On se retrouve juste après. Retour dans ce Washington Forum. Le thème cette semaine, les smartphones en Afrique. Et nos invités pour en parler, Michel Rogy de la Banque mondiale, Karim Koundi chez Deloitte à Tunis, Jean-Michel Huet chez Bering Point à Paris et Anne Mokshot, Khadijetou Abeid, entrepreneuse mauritanienne. Khadijetou, on a beaucoup parlé d'impact économique avant la pause, mais les smartphones ont aussi un impact sur la santé et l'éducation. Vous avez vous-même créé une application, je le disais en début de cette émission, Diab App. Cela concerne le diabète. De quoi s'agit-il exactement ?
En effet, nous avons constaté que la pathologie du diabète touche plus de 6% de la population mauritanienne, selon les statistiques disponibles, et 16,3% en Afrique. Donc, nous avons décidé de créer cette application qui a pour but d'échange des données médicales entre les patients et leurs médecins traitants en temps réel.
Merci beaucoup, Khadijetou, pour cette explication. Michel Rogy, de la Banque mondiale, c'est aussi une façon de rendre compte et de rendre concrètes les idées pour les entrepreneurs et aussi parfois peut-être de contourner la bureaucratie, les smartphones. Vous mettez aussi l'accent sur cette possibilité avec ces concours-là au niveau de la Banque mondiale.
Exactement. La disponibilité des terminaux et des réseaux ne signifie pas nécessairement qu'on va les utiliser au-delà des réseaux sociaux ou de YouTube. Ce qui nous importe, nous, c'est de donner à ces terminaux un potentiel de créativité, de recherche de solutions, comme dans le cas du diabète. Mais dans cette compétition, nous avions également un exemple d'application pour renforcer la sécurité des femmes qui voyagent dans les taxis. Donc on voit qu'il y a plein de problèmes de la vie quotidienne qui peuvent trouver des solutions pragmatiques à travers les smartphones et les réseaux haut débit qui sont derrière.
Merci à vous. Rendez-vous traditionnel dans ce Washington Forum. Avant de poursuivre, je vous propose de lire quelques commentaires laissés par nos fans sur Facebook. On va d'abord aller à Madagascar. Écoutez, Miaroza Jeanne, elle explique « C'est mon passe-temps, on n'a plus besoin d'acheter de livres ou de dictionnaires car on peut tout avoir sur le téléphone ». Au Mali, Racine qui nous explique « Ces téléphones ont fait de moi un esclave. En effet, je ne peux plus rien faire. Je me pose même cette question. Comment faisait-on avant l'arrivée des téléphones pour contacter ses amis et s'informer ?» En République démocratique du Congo, à Kinshasa, Alphonse Boaki nous dit « Grâce au smartphone, j'ai arrêté de fréquenter les cybercafés où l'impatience me gagnait souvent en attendant que les utilisateurs libèrent les ordinateurs, sans parler des coupures de courant. » Et puis à Ouagadougou, Alidou Napi, il nous explique, lui, que ces téléphones nuisent au développement du continent. Il n'y a plus de communication directe, c'est toujours par l'intermédiaire de cet outil. On devrait faire un embargo sur ces téléphones pour épargner l'Afrique de tout ça. Voilà évidemment pour ces commentaires Facebook. Karim Koundi, on peut aussi élargir un petit peu ce débat. On a parlé économie, on a parlé de la santé et de l'éducation. Vous êtes en Tunisie, comment ne pas évoquer le printemps arabe ? C'est aussi un impact évidemment très important en matière de démocratie, ces smartphones.
La technologie apporte beaucoup en termes de partage et d'accès au savoir et à l'information. Bien sûr, en termes d'environnement démocratique, les technologies et les smartphones spécifiquement permettent généralement aux différentes populations d'avoir un accès plus simple aux différents services et surtout aussi avoir une approche en fait participative. Donc les smartphones et les technologies en général permettent de développer une meilleure en fait participation des populations dans les processus en fait démocratiques et dans la prise de décision au niveau que ce soit au niveau des collectivités locales ou régionales ou au niveau en fait, national. Donc la notion de e-participation, c'est un concept qui est au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui le e-gov et qui est vraiment l'un des axes des développements en fait démocratiques dans les pays, que ce soit au niveau de la participation des populations, au niveau des décisions locales ou même au niveau en fait national.
Et Jean-Michel Huette, à Paris, vous faites même un lien direct entre ces nouvelles technologies et la démocratie. Vous pourriez nous expliquer un petit peu?
Un lien direct, encore une fois, l'exemple de Karim était intéressant. Il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé au moment du printemps arabe. Et très clairement, l'usage des applications, des technologies a clairement joué. Et ce qui est assez marquant, c'est cette rapidité. On se rend compte qu'en Europe ou aux États-Unis, l'iPhone, ça fait juste 8 ans qu'on l'a. Et aujourd'hui, il débarque en Afrique. Et on a un véritable phénomène pour moi de saut presque quantique, où finalement les Africains ne vont pas découvrir Internet et les nouvelles technologies comme nous on l'a fait sur PC et ADSL, directement sur mobile, directement sur leur smartphone. Et là, vous avez plein d'enjeux qui vont jouer, bien sûr dans l'économie, on en a parlé, mais aussi dans la démocratie. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'Afrique, avec notamment la biométrie qui se développe de plus en plus, est un des continents qui va le plus vite pour permettre à l'ensemble de ses citoyens d'avoir un jeu collectif, un jeu associatif, un jeu citoyen de plus en plus fort.
Et vous diriez, Jean-Michel Huette, que finalement, il y a un saut qualitatif. On parle souvent de fracture numérique entre l'Afrique et le reste du monde. Vraiment, ces smartphones et cette technologie, ça permet vraiment de combler ce gap, comme on dirait en anglais. Jean-Michel Huette, visiblement, vous ne nous avez pas entendu. Je disais, oui. Je vais répéter pour ceux qui nous suivent. Est-ce que vous avez l'impression, finalement, que la fracture numérique est effacée entre l'Afrique et le reste du monde grâce à ces smartphones? Même si, nous l'avons dit en première partie d'émission, tout le monde n'est pas connecté en Afrique. Il y a encore de grandes disparités entre l'Afrique du littoral, par exemple, et l'Afrique centrale.
Exactement. Il y a encore de très grandes disparités en Afrique, à la fois au niveau des pays, au sein même des pays, entre les milieux ruraux et les milieux urbains, Michel en a parlé, il y a des écarts considérables. Il y a aussi des écarts d'un point de vue sociologique. Un téléphone mobile, on a parlé du prix, coûte cher. Donc quelque part, quand on est dans les classes moyennes ou au-dessus, ça va. Quand on est en dessous, on n'a pas les mêmes usages, on n'a pas les mêmes accès. Il y a même une étude de l'ONU en 2009 qui démontrait qu'en Tanzanie, il y avait des arbitrages dans les milieux les plus modestes qui étaient faits entre prendre quelques minutes de téléphone et l'achat de nourriture. Donc on voit bien que le gap et la frontière est encore loin d'être comblé. Et puis c'est un phénomène aussi intéressant, alors qui peut être plus positif, c'est qu'on a un vrai phénomène de ce qu'on appelle l'innovation inversée. C'est-à-dire qu'il y a certes encore du retard de l'Afrique, et c'est normal, dans le développement de cette technologie, dans ses usages, mais d'un autre côté, le continent africain nous donne des exemples où nous, Européens, Américains, nous sommes en retard. Et il y a des applications dans la santé, l'exemple de notre ami John McShutt est excellent, dans le domaine de la démocratie, on en a parlé, où ces usages nouveaux, nous viennent d'Afrique, et non pas d'Europe, et non pas d'Asie, et non pas des États-Unis. Donc il y a peut-être encore une fracture technologique d'un point de vue numérique, mais en termes d'usage, la fracture, elle est peut-être dans l'autre sens.
Oui, ça, ce sont que des événements positifs. Mais on l'a vu récemment en République démocratique du Congo, à Kinshasa, il y avait ces manifestations contre la modification de la loi électorale. Et pendant quasiment 2 semaines, les autorités congolaises ont en tout cas bloqué justement les réseaux, les SMS et Internet. Alors, Michel Rogier, est-ce que finalement on ne s'enthousiasme pas un peu trop de ces nouvelles technologies? Car ça reste des réseaux. Et derrière ces réseaux, il y a des États qui peuvent tourner la clé et complètement extraire un pays de toute relation avec le reste du monde pendant une certaine période.
On peut fermer les frontières comme on peut fermer les réseaux. Je pense que ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est de voir que la courbe d'apprentissage est en train de se dérouler avec ces nouvelles plateformes qui sont mises à disposition. Et il faut effectivement arriver à ce que ces plateformes deviennent un outil de participation, un outil de démocratie, un outil d'inclusion dans la société globale du savoir. C'est un apprentissage pour tout le monde, pour les utilisateurs comme pour les gouvernements.
Et on va justement poser la question à Khadijatou Abeid à Nouakchott, on le rappelle, créatrice de l'application, entre autres, hein, Diab App. Est-ce que vous sentez également en Mauritanie que ça permet vraiment de dépasser peut-être les couches sociales, de dépasser les statuts, parfois les clans? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que grâce à ces smartphones, vous, en tout cas, en tant que femme africaine, vous êtes reliée au monde?
Et exactement. La Mauritanie, ont commencé, les jeunes plus spécifiquement, ont commencé à utiliser les smartphones. Pour le moment, juste accéder aux réseaux sociaux sur Facebook, sur le net. Mais il y a des jeunes diplômés qui, dans le domaine du TIC, qui ont pensé à utiliser les smartphones pour créer un contenu numérique spécifiquement pour la Mauritanie. Donc, c'est très intéressant du point de vue que l'État soit conscient de l'intérêt des smartphones et par exemple, aide ces jeunes-là à utiliser, par exemple, à utiliser les smartphones. Donc, comme vos invités ont dit, il y a même pas 6 mois que l'État, qu'il y a un vote dans le Parlement afin de restreindre l'utilisation de quelques, par exemple, des données numériques, etc. Donc, c'est prévu, nous avons.
Alors, on n'entend plus Khadija Touabeil. On va poser la question à Tunis, à Karim Koundi. Karim, vous notez dans votre rapport qui a été publié, évidemment, la semaine dernière, vous notez que peut-être la prochaine étape pour l'Afrique, c'est le e-commerce, justement, car ces smartphones permettent aussi d'améliorer, notamment, les réseaux postaux qui ne sont pas forcément très efficaces sur le continent. Pouvez-vous approfondir ?
Oui, effectivement. Vu qu'aujourd'hui, on a une base client très importante en Afrique qui paye via le mobile. Donc le frein et l'accès au paiement via Internet en fait est pratiquement en fait levé puisqu'aujourd'hui le paiement via le mobile en fait devient très populaire au niveau du continent. Donc ça c'est d'une part. Mais l'autre frein au niveau du développement de l'e-commerce en Afrique, c'est le manque de fiabilité des services postaux pour livrer des produits physiques chez l'ensemble des consommateurs qui veulent en fait acheter en ligne. Alors, l'une des alternatives qu'on voit en termes de tendance, qui est une tendance mondiale, et on pense qu'elle serait très pertinente pour le continent africain et qui va vraiment lever ce frein de la livraison des produits physiques chez le client final, c'est le développement de ce qu'on appelle le concept du click and collect, qui est un concept autour de box qui sont déployées dans les zones de fort passage, donc ce qu'on appelle les zones de hotspot. Où on peut se faire livrer toutes sortes de produits physiques au niveau de ces boxes, qui peuvent être d'ailleurs gérés même par les services postaux au niveau du réseau de distribution de la poste, et qui permet justement d'avoir un processus de livraison fiable des produits physiques au niveau de ces réseaux de click and collect qui seront forcément portés par les chaînes de distribution dans les pays, et qui permettent justement d'améliorer, je dirais, le niveau de confiance des différents consommateurs au niveau des achats à travers les sites en ligne ou les achats en fait via le téléphone mobile.
Merci beaucoup Karim pour ces explications. Ainsi va s'achever notre débat sur l'explosion des smartphones en Afrique. On l'a vu, beaucoup de belles promesses à évidemment concrétiser pour le continent africain qui, comme le rappelait Jean-Michel Huette à Paris, est parfois bien en avance par rapport au reste du monde. Et on continue, bien évidemment, la conversation sur Facebook. Voilà, après avoir parlé de ces smartphones un peu plus légers, les Oscars qui ont eu lieu dimanche dernier à Hollywood, les stars étaient présentes sur le tapis rouge, ainsi que la pluie, on l'a vu. Les deux représentants africains, Timbuktu et Virunga, n'ont pas été récompensés. Roger Muntou était sur place pour VOA Afrique. Avant de le retrouver sans statuette sur ce plateau, voyons son reportage et les réactions des Africains qui tentent sur place de percer dans l'industrie cinématographique américaine.
Les Oscars, c'était pour les Blancs, mais aujourd'hui, on a des Noirs américains aussi. Les Oscars, c'était juste pour les Américains, mais aujourd'hui, on voit des Européens qui viennent remporter aussi les Oscars ici.
Directing and producing, acting in my films. Je réalise, je produis, je suis acteur principal dans mes films. J'ai fait la distribution de mes films partout dans le monde. La seule chose qui peut me convaincre que nous avons réussi... Écoutez, vous savez quand on dit « je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu » Eh bien moi je peux pas encore dire que j'ai vaincu jusqu'à ce que je sois sur ce podium des Oscars et que je sois tout simplement sélectionné. J'ai pas besoin de remporter un prix nécessairement.
C'est bien beau de dire que c'est difficile pour les Africains, mais tout ce que je peux dire, c'est que laissons le temps au temps. Des fois, il faut reconnaître les savoir-faire des autres pour que tu apprennes plus et que tu fasses mieux. Bientôt là, ce film va sortir, je veux dire, Unexpected Guest, un simple film de 90 minutes, 90 minutes. Je pense que ce film pourra vous faire comprendre de quoi je parle.
J'ai rencontré des difficultés dans ce métier, vous savez. Par exemple, j'allais dans des castings ici à Hollywood quand je venais juste d'arriver. Et partout où j'allais, les réalisateurs m'appelaient pour me dire « Pascal, tu sais, tu es très bon dans ce que tu fais, mais ton seul problème, c'est ton accent. »
One problem. Your accent.
Roger Muntou avec nous en chair et en os. Et alors, Roger a été généreux lorsqu'il est revenu à Washington puisqu'il nous a rapporté la petite statuette. Roger, on a vu votre reportage. Quelles ont été vos impressions sur cette grande messe du cinéma mondial que sont les Oscars ?
Mais c'était tellement super. C'était bien d'avoir déjà être là. C'était un honneur, Nico. Et il y avait beaucoup de monde. Et évidemment, la communauté africaine était... ceux-là qui ne pouvaient pas être dans la salle étaient dehors. Hein. C'était full parce que, évidemment, comme je l'ai dit à la radio, ils étaient venus pour supporter ce film africain qui était représenté par le film Timbuktu d'Abdramane Sissako.
Évidemment, déception, on le disait, hein, pour les Africains, puisque Timbuktu, notamment dans la catégorie du meilleur film étranger, Timbuktu n'a pas été récompensé.
Exactement, j'aime bien le mot, Nico, déception, parce que bien après les Oscars, nous sommes sortis pour parler à tous ces frères et sœurs africains qui sont ailés, et certains même nous ont envoyé des SMS pour nous dire combien ils étaient déçus, parce que évidemment, c'est pas chaque jour, comme ils étaient en train de le dire, c'est pas chaque jour qu'on trouve un film africain, Nico, aux Oscars. Mais lui-même, Nico, on doit parler de Mr., comme on l'appelle, Mr. Abdramane Sissako, lui-même il disait déjà, j'écoute, moi je suis déjà content, juste le fait que je sois nominé et fille, sélectionné, je veux dire. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il avait déjà gagné vendredi avant les Oscars en France, les Césars, n'est-ce pas ?
Et Roger, est-ce qu'il y a une star qui vous a impressionné sur le tapis rouge ?
Ça, c'est une très bonne question, Nico. C'est l'artiste Common. L'artiste Common et John Legend, les deux à qui j'ai eu l'occasion, le privilège de parler, discuter, n'est-ce pas ? Et après, même leur discours touchant devant tout le monde. Et pourquoi j'ai dit qu'ils m'ont vraiment impressionné, Nico ? C'est parce que quand ils étaient en train de faire leur discours devant le public, tout le monde pleurait dans la salle et c'était triste à voir.
Merci beaucoup Roger Muntou, hein, qui reçoit l'Oscar du meilleur reporter sur le tapis rouge. On vous retrouve évidemment
pour
tous les soirs dans RM Show, 20h temps universel. Et avant de se quitter, on va avoir une pensée, hein, pour Claude Kamanga Mutonde. Notre confrère de Biwan en RDC nous a quittés cette semaine. Avec sa voix unique, il avait été notamment l'un des correspondants de VOA Afrique à Kinshasa. Sa disparition laisse un grand vide dans le paysage médiatique congolais. Cette émission lui est dédiée. Une pensée pour sa famille et ses collègues de notre télévision partenaire Biwan. Voilà, ainsi va s'achever ce Washington Forum. Merci de votre fidélité. La semaine prochaine, vous retrouverez, comme d'habitude, Jacques Aristide. On va remercier Lionel Gaïma, Linda Ringe et Jean-Michel Mathurin pour la réalisation de cette émission. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée et on vous retrouve sur Internet pour parler évidemment de l'Afrique sur voafrique.com.